Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. On part au cinéma car sa vie est un film. La culture orientale, autant que la culture française, sont en lui, cimentées par le soleil d'Alger, la ville de son enfance. Je reçois Alexandre Arcadie, à qui on doit des films puissants et solaires, souvent fraternels, parfois redoutables, je pense au Grand Pardon, et de plus en plus souvent engagés. Alors voilà, cet après-midi, je vous propose de faire un long travelling sur son histoire à lui, si romanesque, celle d'un enfant blond de la Casbah, devenu un cinéaste internationalement reconnu.
Europe 1.
Bonjour Alexandre Arcadie.
Bonjour, c'est gentil tout ça.
Alors, cher Alexandre, allez, on plonge dans le vif du sujet. Vous avez d'abord fait des films pour réveiller les souvenirs d'un passé englouti. Le coup de Sirocco, le grand carnaval pour Sacha, là-bas mon pays, ce que le jour doit à la nuit. Et puis pour nous raconter des histoires redoutables et palpitantes. Et là, je pense au Grand Pardon, bien sûr. Mais désormais, diriez-vous que vous faites des films pour nous aider à voir ce que le monde devient ?
Je fais surtout des films pour raconter des histoires, hein, comme beaucoup de mes confrères. C'est surtout ça. Je pense que les films que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui ont cette vertu de nous raconter des histoires romanesques et de nous ouvrir sur le monde, sur le regard qu'on porte sur les uns, sur les autres, et cette façon qu'on a de regarder la vie qui se présente à nous. Voilà, c'est comme ça que j'entrevois ce métier, raconteur d'histoires.
Alors, puisque vous avez parlé de quête de sens, il y a 31 ans, Alexandre Arcadie, vous tourniez L'Union sacrée avec Patrick Bruel et Richard Berry, film dans lequel un juif et un arabe s'associaient pour combattre la montée des extrémistes, en particulier celle de l'islam radical. 31 ans plus tard, on peut dire que vous aviez presque tout entrevu.
C'est incroyable. Franchement, quand j'ai abordé ce sujet, il faut vous dire que au départ, ça devait être une série.
Ah oui.
Oui, ça devait être une série avec pour Canal+, qui venait d'ouvrir ses antennes, et Pierre Lescure. Et on a commencé à écrire quelques épisodes, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait matière à faire vraiment un grand film, un film important. Et puis on a abordé ce sujet avec une volonté de raconter les choses de notre société et de parler particulièrement de cet attentat de chez Goldenberg, rue des Rosiers. Et on n'imaginait pas être en phase avec la réalité absolument incroyable de notre pays. D'abord, au moment de la sortie du film, ça a été un moment même assez difficile. C'était au moment de l'affaire Salman Rushdie, c'est-à-dire oui. Qu'on était dans un contexte très particulier. Et puis, ce film nous a ouvert une porte en nous disant « Attention, regardez ce qui va arriver. » Et malheureusement, les choses sont arrivées. Et sont arrivées d'une façon tellement dramatique pour le monde entier qu'on a été précurseurs de porteurs d'alerte.
Oui, c'est ça.
Des compagnons de route qui avaient l'intention de dire aux gens « Attention, les choses vont bouger dans ce sens-là. »
Mais alors, il y a une chose qui m'interpelle. Un cinéaste, effectivement, c'est un passeur d'émotions, mais un cinéaste n'est pas un réconciliateur. Est-ce que c'est la limite de l'art, ça, de ne pas pouvoir réconcilier ? Parce que, par exemple, la parole des artistes, elle fait chanter, danser, rêver, applaudir les peuples, mais elle ne les a jamais fait se réconcilier. Vous pensez que le cinéma devrait pouvoir avoir cette vertu ?
J'aimerais. C'est vrai que c'est difficile, mais à chaque fois, on y croit. Parce qu'il faut y croire. Il faut croire quand même que, même si ce n'est qu'une petite goutte d'eau dans la prise de conscience, qu'elle puisse apporter comme ça cette perception et permettre aux gens de réagir. De cette façon, j'ai fait ce film sur Ilan Halimi, et c'était aussi dans cette perspective.
24 jours,
24,
voilà.
24 jours, parce que j'avais besoin, pour moi, pour les autres, de dire non. Voilà.
Vous êtes né et vous avez passé votre enfance, cette rue du Lézard, à Alger, au pied de la Casbah, dans un immeuble où cohabitaient de la manière la plus pacifique des chrétiens, des juifs, des musulmans. Mais en fait, chaque communauté évoluait dans sa sphère sans jamais pénétrer l'autre. Donc la société dans laquelle vous avez grandi, passé vos premières années, semblait mélangée, mais en fait, elle ne l'était pas du tout.
D'apparence, oui, quand même.
Pour nous, d'apparence, enfants, mais nous, seulement pour d'apparence.
Nous, pour nous, enfants, oui, hein, parce qu'on était mélangés. Mais il y avait le respect des uns et des autres, mais c'était une façon de... Ce respect n'amenait pas la, comment dire, la communion. Voilà. Il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas de mariage mixte, par exemple. Et il y avait ce cloisonnement qui était dicté par l'appartenance à une communauté qui vivait pleinement et jouissait pleinement de son particularisme,
ouais.
Mais chacun évoquait les siens ou se comportait de façon à ce que les autres ne pénètrent pas ce même territoire. C'était ça, l'Algérie coloniale.
Mmh. Voilà. Mais alors, Alexandre Arcadie, pourquoi les Juifs qui constituaient la majorité des professions libérales en Algérie, médecins, dentistes, avocats, commerçants, pourquoi n'avaient-ils pas accès aux responsabilités politiques ?
Il y avait très peu de responsables politiques,
n'est-ce pas,
de la communauté. Il y a eu, je crois, un député de la Casbah, de la basse Casbah, qui était un membre de la communauté juive, mais très peu ont pris ce chemin-là. Je ne sais pas. Je crois que c'est une communauté qui a remercié la France d'abord de les avoir permis d'être citoyens à part entière, et ils ont toujours voulu montrer leur reconnaissance à la communauté nationale.
Alors, aussi longtemps que votre père a vécu, vous avez cru qu'il était juif. Et c'est à sa mort que vous avez découvert qu'il était orthodoxe, en fait, votre père. Et que pour épouser la belle Drifa aux yeux verts, votre maman, eh bien, il avait clamé au rabbin son judaïsme. C'était vraiment très peu de temps après la Shoah. Donc, se déclarer juif par amour, c'était héroïque.
Ah, c'était la seule solution, sinon il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu l'épouser.
Mais c'était héroïque
mais
dans le contexte.
Il faut dire que c'est un homme un peu particulier, hongrois de naissance, 19 ans de légion étrangère en Algérie, une sorte de Yul Brynner, aux yeux bleus lui aussi, et qui sur le tard, après ses 19 ans de légion, a rencontré. Mais c'est comme dans les films d'avant-guerre, hein. C'était aux messes des officiers, il était administrateur du mess des officiers à Alger après la Légion. Et là, ma mère était serveuse au mess. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et coup de foudre, il l'a demandé en mariage à ma grand-mère. Et comme ma mère était déjà divorcée, qu'en ce temps-là, une femme divorcée, c'était pas facile de trouver un nouveau mari, elle a bien été contente de voir cet homme rentrer dans la famille et de croire tout ce qu'il disait.
Bon, Alexandre Arcadie, on va revenir à la terre, justement, de votre enfance. On oublie qu'Alger, avant l'indépendance, Alger était la deuxième ville de France après Paris. Alger, avec la montée en gradin de ses façades blanches vers la Casbah, ses coursives, ses cours intérieures, ses maisons mauresques, et puis au sommet, la vieille forteresse turque de Barberousse. Alors, cette ville où vous pressentiez pourtant, enfant, que vous ne vivriez pas, cette ville, vous l'avez follement aimée avant de devoir la fuir.
Oui. Les habitants aimaient cette ville comme c'est pas croyable, c'était le paradis sur terre. Et Camus l'a si bien chanté, ouais. Albert Camus. Et c'est une ville aussi où on aimait le cinéma, terriblement le cinéma.
Il y avait énormément, presque autant de salles de cinéma qu'en France.
Qu'à Paris. Alger, oui. Ouais. Et il y a une petite anecdote. Vous savez qu'au moment de la création du Festival de Cannes, trois villes étaient en lice. Il y avait Biarritz, Cannes et Alger. Et en fin de compte, c'est Cannes qui a été désigné. Mais vous imaginez le Festival international du film à Alger, ça a de la gueule quand même.
On aura au cours de cette conversation l'occasion de parler du premier festival du cinéma d'été que vous avez organisé en 2000 à Alger, n'est-ce pas ?
Exactement.
Vous, l'enfant de la Casbah. On va s'interrompre un bref instant et puis on se retrouve tout de suite pour se promener dans les souvenirs d'Alexandre Arcadie.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Ah, les surprises. Il y a celles du chef censé avoir du goût et d'autres parfois de très mauvais goût. Il y a des cadeaux aux surprises et des surprises qui sont pas vraiment des cadeaux. Et puis il y a les promos surprises, valables sur des produits qui, surprise, ne sont plus disponibles. Bref, les surprises, parfois c'est mieux quand il n'y en a pas.
Chez Nissan, pas de mauvaises surprises. Consultez maintenant sur Nissan.fr nos offres exceptionnelles sur des Nissan Qashqai en stock. Et contactez directement en ligne votre concessionnaire pour réserver un essai. Du 4 au 13 septembre.
Nissan.
Détails Nissan.fr.
Une bonne stratégie, c'est faire des choix. Au MEDEF, on fait le choix de l'emploi. On se mobilise chaque jour pour soutenir les PME, pour les aider à maintenir l'activité et les compétences. Plus que jamais, il faut penser à l'avenir. L'avenir des jeunes, l'avenir de nos entreprises.
Chef d'entreprise, en recrutant un alternant jusqu'à Bac plus 5, avant le 28 février 2021, vous pouvez percevoir une aide à l'embauche de 5 000 ou 8 000 euros. Pour savoir comment en bénéficier, rendez-vous sur alternance.medef.com.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Cet après-midi, on se promène dans les souvenirs d'Alexandre Arcadie, qui a fait paraître il y a quelque temps chez Grasset, 7 rue du Lézard. Alors Alexandre Arcadie, on évoquait à l'instant Alger la Blanche, la ville où vous avez grandi, comme Roger Hanin d'ailleurs, l'un de vos acteurs fétiches. Sauf que, bon, Hanin, enfant, il ressemblait à tous les enfants d'Alger, pas vous. Vous étiez comme un petit Suédois dans la Casbah, puisque vous étiez blond avec les yeux ciel. Sans doute d'ailleurs, est-ce dû aux origines hongroises de votre père, bien que votre maman fût algérienne. Donc vous étiez sans cesse observé et même photographié par les touristes comme une curiosité. Est-ce que c'est ça qui vous a en fait exclu du groupe d'enfants et a fait de vous, à votre tour, petit à petit, un observateur ?
Cette anecdote, en l'écrivant dans le livre, je me suis rendu compte qu'elle a eu une importance considérable parce que ces touristes qui se promenaient dans la Basse-Casbah et qui ont découvert au milieu de tous ces petits noireaux autour de moi, ce petit blond aux yeux bleus, ils ont été intrigués et ils m'ont pris en photo. Et en me prenant en photo, j'ai l'impression d'être sorti du cadre. Étant différent, je me suis mis à regarder et à engranger. Et ces souvenirs-là, je m'en suis imprégné. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est déclenché, qui a fait que j'ai regardé ce pays, cette vie, ces couleurs, d'une façon différente.
Alors, sans parler des touristes, blond dans la Casbah, vous le viviez comment ?
Je ne m'en rendais pas compte. Bon, on me disait « Ah, il est... » Ah, Arcadie, qu'est-ce qu'il est beau, ah, il est mignon. Bon, d'accord, mais on s'en rend pas
compte. Et les autres enfants ?
Ben, les autres enfants, bon, c'était un peu plus pénible à l'école, parce que c'est la différence dans l'autre sens. Hein. Vous savez, c'est une espèce de racisme à rebours. Hein.
Mais oui.
Et ça, c'était un petit peu délicat, mais j'en tirais pas ombrage. Hein.
Alors, revenons à l'observation. Un observateur peut devenir un écrivain, un peintre, un cinéaste ou rester un rêveur. Vous dites, Alexandre Arcadie, que votre amour du cinéma est né au cours de ces après-midi que, en fait, vous voliez à la guerre quand vous étiez enfant. Vous alliez donc au cinéma pour oublier la mort qui rôdait dans les rues d'Alger.
Ah, j'adore le cinéma.
Quand justement, les combats ont commencé.
Exactement.
Et puis les bombes qui explosaient partout.
Exactement, oui. Ça a été un rendez-vous... Je devais avoir, je ne sais pas moi, 8-9 ans, peut-être 10 ans, je ne sais plus. La première fois que j'étais au cinéma, c'était au Ciné-Club et j'ai été voir Jeux interdits. Et cette rencontre avec le cinéma, de ce film-là particulier, ça m'a entraîné vers une volonté d'en voir plus, toujours plus.
Mais la première fois que vous êtes entré dans une salle de cinéma, c'était pour échapper à la réalité guerrière qui vous cernait ?
Je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais il y avait de cela, parce que ça me... Dans une salle de cinéma, on était protégés, bizarrement.
Oui.
Bon, on a vu des soldats devant les salles de cinéma fouiller les gens, etc. Bon, mais à l'intérieur, on était protégés, on ne pensait pas à la violence. On était embarqués, quoi.
Pour vivre intensément, et alors ça, je trouve ça extraordinaire, un film sans l'avoir vu, vous aviez imaginé un système prodigieux, vous les mômes qui n'aviez pas d'argent, vous aviez inventé le cinéma des pauvres. Il faut absolument nous raconter.
Oui, parce que, bon, effectivement, on n'avait pas de sous. Et donc, on se réunissait à plusieurs. On avait notre argent de poche qui était vraiment très, 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 très petit. Et au fond, on se disait, bon, ben, si on met tout notre argent en commun, on peut acheter une place de cinéma. Et on achetait donc une place. Et puis, l'un de nous était désigné au tirage au sort pour rentrer voir le film.
Avec l'argent de tous qui allait voir le film.
Et au sortir de là, il fallait raconter. Moi, j'adorais être dans cette position parce que ça me permettait de raconter les fins que je voulais. Je changeais les fins.
Mais déjà, je
faisais n'importe quoi. Et on me disait, mais c'est pas possible. Et puis, je partais comme ça. Je commençais à faire du cinéma.
Vous improvisiez scénariste, chef décorateur.
Exactement.
Bon, alors, finalement, j'imagine que vous ne tiriez pas forcément au hasard. Souvent, ça devait... Vous étiez désigné pour aller voir le film parce que vous le racontiez mieux à la sortie que les autres, non ?
Peut-être qu'on a favorisé ce tirage au sort parce que bon, souvent j'ai été désigné. Voilà.
Alexandre Arcadi, un an et demi avant le rapatriement officiel des Pieds Noirs sur le continent, votre père a décidé, dans le plus grand secret, que sa femme et ses 5 garçons, et lui bien sûr, fuiraient l'Algérie. Alors, il fallait absolument voyager léger pour partir vers l'inconnu. Ça tombait bien parce que vous n'aviez pas de valise. Mais au moment de quitter votre minuscule appartement, il paraît que votre maman décréta que s'il y avait une seule chose, vraiment une seule à emporter, c'était l'énorme pilon qu'elle utilisait pour préparer les épices. Pilon qui pesait 10 kilos. Donc, intransportable. Votre père, bien sûr, refusa. Et que se passa-t-il ?
Elle a eu gain de cause, parce qu'elle a croisé les bras, comme je viens de le faire, en disant « si c'est comme ça, je ne partirai pas ». Et donc, elle a eu gain de cause et il a accepté de que ce pilon rejoigne ce sac de jute dans lequel on a entreposé toutes nos affaires en vrac, comme ça, et rapidement, parce que nous étions vraiment en danger à ce moment-là, dans notre appartement.
Donc vous êtes parti la nuit en cachette, voilà. Les voisins l'ignoraient.
Voilà, c'était ça le deal, c'était de ne partir. Mon père nous avait prévenu, il ne faut prévenir personne. Et il y a une unité de l'armée qui est venue nous chercher, ils nous ont encadrés, ils nous ont fait partir, ils nous ont exfiltrés, comme on dit aujourd'hui, de notre appartement. Et on s'est retrouvés sur ce bateau.
Un an et demi avant tout le monde.
C'était au moment des manifestations, des premières grandes manifestations des Algériens, en décembre 60. Et là, il y a eu une expression populaire qui s'est soulevée. Les premiers drapeaux algériens sont apparus et nous étions dans ce quartier-là. Et la foule, quand elle est comme ça, elle ne se maîtrise pas. Et on n'était vraiment pas en sécurité.
Cet objet de 10 kilos qui représentait à la fois la culture et le chagrin de votre mère qui allait devoir être arrachée à sa terre, tant aimée.
Oui.
Vous l'avez transporté jusqu'au fin fond du 20e arrondissement de Paris, où allait démarrer votre nouvelle vie, et même plus loin encore, parce que ce fameux pilon, on le retrouve dans pas mal de vos films, les premiers
si
en tout
jour,
cas.
Si un jour quelqu'un fait une étude sur le cinéma d'Alexandre Arcadi, il découvrira un élément important dans chacun de mes films, c'est ce pilon. J'ai la chance de travailler sur tous mes films avec mon frère, mon jeune frère, Tony, qui est chef décorateur. Et qui effectivement, comme un clin d'œil dans un des décors, j'attends le moment où le pilon va apparaître dans le décor quand j'arrive sur un plateau. Et souvent, je le retrouve, et toujours, je le retrouve. Et il est là, présent. C'est notre clin d'œil comme ça que nous apportons en souvenir de notre maman. Oui.
Ça devait faire la fierté de votre maman lorsqu'elle regardait vos films.
Ah, ça, c'était extraordinaire. Pour le premier film, Le coup de Sirocco, vous savez, j'étais très jeune, un peu inconscient. Je ne savais pas du tout ce que ce film allait devenir, est-ce qu'il rencontrerait les spectateurs ou pas. Et j'ai amené maman voir le film le premier jour sur les Champs-Élysées. On a partagé une pizza, et puis j'ai rentré dans la salle, je l'ai installée. Et là, elle était toute seule un petit peu avant tout le monde. Et je l'ai regardée seule comme ça, je me suis dit, bon, je ne sais pas si des gens vont venir voir le film, mais j'ai fait ce film pour elle et je suis très heureux de l'avoir fait. Le sort a voulu que ce soit un énorme succès et que les gens étaient agglutinés dehors. Vous savez, il y a une anecdote à propos des spectateurs du coup de Sirocco.
Dites-nous.
Sur les Champs-Élysées, le premier samedi, la queue était si grande comme ça. Il y avait une énorme queue de gens qui attendaient. Et il y a un monsieur qui est venu vers moi avec un corps, l'accent pied noir, en prenant par la manche. C'est vous, monsieur Arcadi ? Oui, c'est pas bien ce que vous faites. Je dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait ?
C'est pas bien
ce que vous faites. Je lui dis, mais quoi, comment quoi ? En 62, on nous a entassés dans les bateaux pour venir en France, et là, vous nous entassez dans les salles de cinéma. C'est pas bien. J'ai trouvé que cet humour avait...
C'est merveilleux, c'est magnifique. Comme dirait notre ami Michel Drucker. Allez, on fait une très courte pause. On retrouve tout de suite Alexandre Arcadi.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h... avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Je reçois l'un des cinéastes français les plus populaires à qui on doit des films cultes, comme par exemple Le Grand Pardon. Je reçois Alexandre Arcadi cet après-midi. Cher Alexandre, sans doute beaucoup de Pieds Noirs rêvèrent-ils secrètement et sans y croire d'un retour en Algérie. Votre maman, elle, dès le troisième jour à Paris, refit en cachette de son mari son pactage, rassembla ses 5 enfants et se rendit gare de Lyon sans un sou, en espérant un miracle qui la ramènerait à Alger. Vous aviez 13 ans, vous étiez l'aîné. Vous avez vécu comment cette tentative de fuite de votre mère ?
Froidement. Il faisait très froid et on était très peu habillés. C'était au mois de décembre, fin décembre 60. Et maman, on a eu assez de vivre chez sa cousine. Il faut dire que nous étions 7 dans notre famille, mes 5 frères et mes parents.
Oui.
Et que la cousine qui nous accueillait était déjà 9. Et ils étaient une petite maison de 150 mètres carrés.
Oui.
Je ne comprends même pas comment on a fait pour pouvoir vivre ces quelques semaines dans ce même appartement. Et donc, elle en a eu assez de l'impréparation de ce voyage que mon père lui faisait subir. Et donc, en représailles, elle avait décidé de repartir. Et la voilà dans les rues de Paris, ne sachant pas où aller et comment rejoindre la gare de Lyon. Et nous étions en charge de la suivre jusqu'au moment où elle est arrivée à la gare de Lyon. Et là, elle a compris que le voyage allait être impossible, voire très difficile. Et elle s'est retournée, et on est retourné ensemble dans le 20e arrondissement. Mais ce geste-là, c'était un dernier geste de révolte, de révolte contre la situation, contre l'histoire avec un grand H. Parce qu'au fond, ces petits Français d'Algérie qui vivaient modestement, plus que modestement, ce qui nous concerne, n'avaient jamais fait de mal à personne. C'était leur pays, c'était le plus beau pays du monde. Et puis, les voilà être obligés de tout quitter, de partir, de s'envoler vers une nouvelle vie. Et j'imagine, à son âge, la moitié de sa vie était déjà là-bas. Et en vous parlant comme ça, je repense à ce moment où nous étions sur le bateau. Donc, quelques jours avant cette histoire, le bateau s'éloigne d'Alger et puis elle se retourne vers nous en nous disant...
J'ai oublié les photos.
J'ai oublié les photos dans le buffet de la cuisine. Elle était en larmes. C'était un désarroi total. Et je m'entends lui dire, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense que c'est vrai. Je m'entends lui dire, ne t'en fais pas, maman. Un jour, je te les ramènerai. Et si j'ai fait du cinéma, au fond, c'est sûrement
pour lui ramener toutes ces images.
Mais évidemment, en faisant le coup de sirocco, c'est ça que j'ai voulu faire.
Alors, votre maman, la belle Drifa aux yeux verts, rêvait d'un retour en Algérie. Vous, adolescent, Alexandre Arcadie, c'est d'un autre départ dont vous rêviez. Vous militiez au sein d'une Hachomère à Zaïre et vous espériez partir un jour sans retour, comme le disait la chanson, pour Israël, dans un kibboutz. Et vous l'avez fait en octobre 66, donc à 19 ans, et accompagné de celle qui sera tout au long de votre vie votre plus fidèle complice, Diane Curis, qui rêvait elle aussi déjà de cinéma, eh bien, vous partez au kibboutz de Yekian, près de la frontière libanaise. Et alors là, la réalité, elle avait les couleurs du rêve ou pas tout à fait ?
Pas tout à fait. Donc ce kibboutz Yekian, qui était à la frontière du Liban,
on dit Yekian.
C'était un kibboutz un peu particulier qui accueillait beaucoup de jeunes Français. Et on est devenus des agriculteurs. Voilà. Et ça me plaisait. Sur la carte consulaire, c'était marqué ouvrier agricole. Ça, j'aimais bien ça. Mais l'utopie, c'était pas vraiment pour nous. Et puis, cette patience qu'il faut avoir quand on cultive la terre, c'est la patience.
Ouais.
Et on était en bouillonnement, ouais. on voulait
trop
agir.
Trop jeune et plein d'ardeur. Et
voilà, et ça n'a pas fonctionné, mais j'en ai tiré non seulement une expérience de vie extraordinaire, et puis ça m'a permis par la suite
de faire ce film
qui s'appelle « Pour Sacha » avec Sophie Marceau et Richard Berry. Et c'est un film qui raconte, au fond, une deuxième guerre. J'ai 19 ans et je vis une deuxième guerre avec la guerre des 6 jours en Israël.
Voilà.
C'est incroyable. En 19 ans, j'ai vécu 2 guerres.
Incroyable. Guerre qui opposa donc Israël à l'Égypte, à la Jordanie et à la Syrie. Alors, ce que j'ai appris d'incroyable en lisant cette biographie passionnante qui est parue chez Grasset, donc cette rue du Lézard, c'est que Diane Curis, qui vous avait accompagnée dans ce kibboutz, devait passer son bac et elle révisait dans les tranchées pendant les alertes.
Exactement. Elle voulait absolument le réussir, ce bac, et elle l'a réussi. Et effectivement, entre 2 alertes, elle était avec ses bouquins en train de réviser son bac et la guerre a éclaté. On a eu très peur hein, parce qu'on écoutait en Israël que les radios, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas évidemment tous ces moyens de communication.
Et les chaînes d'info.
On écoutait Radio Le Caire et Radio Beyrouth en français et c'était...
L'apocalypse.
C'était l'apocalypse. On devait être tué, égorgé.
Comme si Jérusalem avait disparu de la carte.
Le sang coulait sur les trottoirs de Tel Aviv, etc. Donc on ne savait rien parce que les Israéliens faisaient le blackout total. Et c'est une guerre qui a été une guerre très éprouvante, hein, moralement, hein, parce qu'on a eu très, très, très peur, oui.
Alors, finalement, après un an et demi de kibboutz et six jours de guerre, eh bien, vous avez décidé, avec Diane Curis, de rentrer en France, grâce aux enveloppes, d'ailleurs, aux maigres enveloppes que vous ont envoyées vos parents pour prendre un bateau. Vous avez dû vous débrouiller, ça, c'est encore une autre histoire qu'on racontera peut-être une prochaine fois. Mais, bon, Israël est dans votre cœur, voilà, pour toujours. Seulement, la vie vous appelait ailleurs. Et en France, alors en France, vous devenez représentant de commerce, tout en suivant des cours de théâtre. Et à 21 ans, Alexandre Arcadi, eh bien, vous êtes engagé par le Théâtre de la Ville, où vous êtes à la fois comédien, régisseur, assistant metteur en scène. Vous avez même joué Lorenzaccio avec les Tréteaux de France. Et à 24 ans, on vous donne la direction du Théâtre Jean Villard à Suresnes. C'est magique. Pourquoi êtes-vous devenu un homme de cinéma? Je voudrais comprendre. Au théâtre, il y a une dimension qui vous manquait?
Je n'avais pas envie d'être assistant et je n'ai pas fait d'école de cinéma. Donc, il y a... pour les metteurs en scène, des voix comme ça, de l'assistana, de la technique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les acteurs. Et il n'y a rien de mieux que de diriger des acteurs au théâtre. Et j'ai dirigé énormément d'acteurs, mais d'horizons différents. Et quand j'ai fait du cinéma, j'ai voulu remettre ce quatrième mur qui n'existait pas, qui me manquait. Mais j'avais cet apprentissage qui était très important. C'était un apprentissage de la façon d'aborder mes histoires à travers les acteurs.
Mais vous avez fait du théâtre en rêvant toujours de cinéma.
Oui, absolument, oui. Et toutes mes mises en scène étaient presque des mises en scène de cinéma. C'était ça, mon idée.
Et heureusement pour nous, il y est parvenu. Alors on retrouve, allez, dans une poignée de secondes, Alexandre Arcadi.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
On lui doit le coup de sirocco, le grand pardon, l'union sacrée pour Sacha, là-bas mon pays. Je reçois l'un de nos cinéastes les plus populaires, né sous le soleil d'Alger la Blanche, Alexandre Arcadi. Cher Alexandre, alors vos débuts au cinéma, franchement, il ne manque pas de piquant. On vous avait engagé comme premier assistant sur le tournage du film, Avoir 20 ans dans les Aurès. Or, avec un culot absolument phénoménal, vous vous êtes proposé pour le premier rôle, le rôle principal du film. Et ça a marché en mai 72. Avoir 20 ans dans les Aurès est sélectionné au Festival de Cannes et remporte le prix de la critique. Donc, ça aurait pu être le début d'une formidable carrière d'acteur.
J'ai commencé par être acteur et j'ai été acteur. Mais en ce qui concerne le Avoir 20 ans dans les Aurès, j'étais assistant, alors que je n'avais jamais été assistant. Hein.
En plus,
et,
oui.
Et le metteur en scène m'avait chargé de trouver l'acteur principal. Et je ne le trouvais pas. Et plus je le cherchais, plus je me disais, mais c'est moi. Et un jour, je lui ai
dit... Vous ne le trouviez pas parce que vous disiez inconsciemment que c'était vous.
Voilà.
Voilà.
Et donc, je me suis retrouvé sur ce tournage face à Philippe Léotard, dont c'était le premier film aussi. Et c'était un...
Oui, mais attendez, comment avez-vous convaincu le metteur en scène que le premier rôle du film, en fait, c'était le jeune homme auquel il avait dit « tu seras mon assistant ».
Mais il était très content d'avoir trouvé quelqu'un qui était devant lui et qu'il ne voyait pas vraiment et qui ressemblait au personnage qu'il avait écrit. Voilà, ça s'est passé comme ça.
Montée des marches, Festival de Cannes, applaudissements, prix de la critique.
Incroyable, incroyable. C'était une première expérience de cinéma et ça a été un succès inouï.
Et vous n'aviez pas envie, à nouveau, de vivre d'autres émotions devant la caméra et pas derrière?
J'avais l'impression de connaître mes limites en tant qu'acteur. Je n'ai pas eu le sentiment d'être très bon, voilà. Puis je n'avais pas envie d'attendre devant le téléphone.
Alors Alexandre Arcadi, le premier scénario de votre premier film sur les rapatriés d'Algérie, Le coup de sirocco, c'est vous qui l'avez écrit? Michel Piccoli et Guy Bedos étaient d'accord pour tenir les rôles principaux, mais à la lecture de ce premier scénario, chez Armédia, on vous a dit « c'est trop sombre, trop mélancolique, on va vous faire rencontrer quelqu'un qui va mettre du soleil dans tout ça, il s'appelle Daniel Saint-Amon ». C'est ainsi qu'est entré dans votre vie professionnelle, donc une sorte de frère avec lequel vous avez écrit presque tous vos films.
Presque tous mes films, oui. Oui, c'est vrai que j'avais écrit ce premier scénario avec un auteur formidable qui s'appelle Jean Pellegris, qui n'est plus là, malheureusement. Et c'était vraiment un film trop noir. Et, Et Gérard Lebovici, qui était mon agent, m'avait dit un jour, mais je n'arrive pas à comprendre, c'est un sujet formidable, mais moi je connais les pieds noirs, ils ont une joie de vivre, une façon d'être. Il n'y a pas une once d'humour dans ce scénario-là.
Il manquait leur faconde, il manquait leur amour
livre,
de la vie.
J'avais lu un roman de Daniel Saint-Amand que je ne connaissais pas, oui. Qui m'avait fait mourir de rire. Et je l'ai rencontré, il était journaliste à France Inter. Et voilà, ça a été une collaboration.
Mais il n'avait encore jamais écrit de scénario pour un film.
Non, il n'avait pas écrit de scénario. Non, il avait écrit des romans, mais il n'avait pas écrit de scénario, non.
Alors, le coup de Sirocco a été un triomphe. Pourquoi Roger Hanin vous a-t-il adressé, avant la sortie du film, une lettre dans laquelle il a écrit, je cite, « Je pense que ce film ne va pas marcher, les gens ne s'intéresseront pas à cette histoire. »
Mais il le pensait. Il le pensait.
C'est hallucinant.
Mais il a fait mieux. C'est-à-dire que non seulement il m'a écrit cette lettre, mais à la fin du Grand Pardon,
oui,
il m'a dit la même chose.
Mais exactement.
Et alors, j'ai dit à Roger, écoute, la prochaine fois...
Non, mais il a fait pire, parce que j'ai noté qu'à la fin du Grand Pardon, il vous téléphone et vous dit mot pour mot, je ne suis pas du tout content. Je crois qu'on a fait fausse route. Le film ne va pas du tout marcher. Et puis alors, franchement, quelle idée de terminer le film sur le visage de ton fils. Non, mais...
Ça l'avait tué, ça. Et je lui ai dit, mais Roger, mais c'est parce que c'est l'avenir. C'est pour ça que je... Bon, enfin, j'ai essayé de lui expliquer, mais il n'entendait rien. Et puis, bon, le film a fonctionné comme vous le savez. Et là, je lui ai dit, Roger, la prochaine fois qu'on fait un film ensemble, ou même pas ensemble, si un jour tu n'aimes pas un de mes films, ne me le dis pas. Non, pardon. Si un jour tu aimes un film que j'aurais fait, tu
ne
me le dis pas.
Voilà. Mais Alexandre Arcadie, le problème de Roger Hanin, c'était quoi? Un égo surdimensionné?
Non, pas du tout. Non, il était cash. Voilà, c'était quelqu'un qui disait ce qu'il pense. Et quelquefois, il se trompait et il l'avouait. Je me suis trompé. Voilà, c'était tout.
En tout cas, vous n'êtes pas rancunier parce que vous avez continué de prendre Roger Hanin dans vos films.
Ah oui, on a fait. Mais moi, j'adore Roger. Enfin, j'adorais Roger. C'était un grand frère pour moi. Oui. Vous savez, on parlait d'Alger, de la basse Casbah. Moi, je suis né rue du Lézard, lui rue Randon. On est à quelques encablures, comme tout près. Bon, à des époques,
20 ans plus tôt,
des époques différentes, lui. Mais on a vécu les mêmes choses, quoi.
Ouais. Voilà. Alors, puisqu'on parle du Grand Pardon, on raconte, vous allez nous dire si c'est vrai, on raconte que lorsque vous avez décidé de tourner le Grand Pardon, Edgar Zemmour, l'un des grands parrains du milieu, vous a téléphoné en prononçant cette phrase menaçante. « Paraît que vous écrivez un film sur ma famille, je veux lire le scénario. »
Exactement. Et là, je lui ai répondu avec une inconscience absolue. Je lui ai dit « Écoutez, vous êtes acteur ? Non. Vous êtes producteur ? Non, ben, je ne vous donnerai pas à lire. » Et puis j'ai rajouté cette phrase. De toute façon, vous dites partout que votre famille est une famille honnête, de travailleurs, etc. Ne vous inquiétez pas, moi je mets en scène des tueurs, des racketteurs, des bandits. Et croyez-moi qu'ils ne ressemblent en rien à votre famille. Ça a été un moment un petit peu délicat. Voilà.
Mais écoutez, le tournage du Grand Pardon a dû se faire sous protection policière, ce qui ignore le public,
ah,
à cause des menaces répétées du clan Zemmour.
Ouais,
donc on peut dire que ça a été plus que délicat quand même.
Ça a été délicat, on a eu très peur, mais il ne s'est rien passé. Voilà, c'était... Et puis tout d'un coup, à la fin, quand le film est sorti, ils ont pris ça comme une belle carte de visite.
Pour le Grand Pardon 2, vous avez donc reconstitué le clan Béthoun dans la vraie villa de Ward Hughes, en Floride.
Oui.
Et une centaine de figurants français sont arrivés de Paris pour les scènes de la bar mitzvah dans les jardins de Ward Hughes. Est-ce qu'aujourd'hui, Alexandre Arcadie, une telle débauche de moyens rentrerait dans les budgets?
Je ne sais pas, je ne crois pas. Aujourd'hui, dans la situation que l'on vit, je ne pense pas. Mais concernant les figurants, ça c'est une belle anecdote. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, tous les figurants à Miami, à l'époque Miami, en 91, ce n'était pas Miami d'aujourd'hui. C'est-à-dire que il n'y avait pas beaucoup d'Européens, il y avait beaucoup de Cubains. Hein. Mmh. Et donc la figuration faisait très très cubaine. Et moi, je voulais trouver des figurants. Et donc j'ai eu cette idée de m'associer avec une agence de voyage en proposant à des gens qui avaient envie de figurer dans le film, de venir passer une semaine en Floride, d'aller voir les parcs d'attractions, etc. Et dans le package, il y avait 2 jours de tournage
sur le film. Mais dites donc, ils auraient pu être 30 000 à se proposer.
Ben, ils étaient pas mal, il y avait plus d'une centaine, mais ça va, ça suffisait, mais c'était très sympathique.
Magnifique, on retrouve tout de suite Alexandre Arcadie.
Bonjour, c'est Julien Bugier. Demain, on se retrouve dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20.
Le décryptage de l'actualité, les grands enjeux de notre époque, les débats de société, l'économie, l'environnement. 2 heures pour réfléchir, confronter et se faire son opinion.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Rendez-vous demain à 18h sur Europe 1.
Envie de tout quitter, de prendre le large ? Découvrez Dacia Sandero Evasion au look SUV avec sa touche surf, sa climatisation, sa motorisation essence compatible GPL sans surcoût, tout ce qu'il faut pour saisir la vague de l'évasion qui vous gagne.
Profitez de Sandero série limitée Evasion à partir de 10 990 euros éligible à la prime à la conversion. Dacia partenaire de la Fédération Française de Surf. Prix conseillé pour Dacia Sandero série limitée Evasion SCE 75.9. Plus d'infos sur Dacia.fr. Voir conditions de reprise et d'éligibilité sur primealaconversion.gouv.fr.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Il est cinéaste, scénariste, producteur. Je reçois Alexandre Arcadi. Alexandre Arcadi, on vient de se quitter dans les jardins de la villa de Howard Hughes en Floride. Et ben restons aux États-Unis, mais on va passer sur la côte ouest, à Los Angeles, où votre fils, Alexandre Aja, est devenu un réalisateur de référence dans le domaine du fantastique et du film d'horreur. C'est à lui, votre fils, donc Alexandre, qu'on doit en 2006 La colline à des yeux, remake qui est devenu culte dans le monde entier, mais aussi Mirrors, Piranhas, Horns, et puis des productions comme Deuxième sous-sol, Pyramide, Maniac, The Door. Son parcours vous bluffe ?
Ah oui. Ah oui. Oui, c'est, moi vraiment, je trouve que ça met en scène absolument incroyable. Je ne suis pas très client de ce type de film, mais il est inimaginable. Il a souvent été réalisateur deuxième équipe de mes films. Hein.
Ah !
Oui, dans beaucoup de films, il a été là avec moi. Je pense à Là-bas, mon pays, Entre chien et loup, 24 jours. Et ça, j'y tenais beaucoup pendant le tournage de 24 jours parce qu'il était question de rapport entre un père, une mère et un fils. Et je voulais que mon fils soit là. Et il m'a vraiment donné un sacré coup de main.
Mais alors, pour un cinéaste français, réussir aux États-Unis et décrocher de gros budgets, ça n'est pas évident. Sachant qu'aux États-Unis, c'est pratiquement toujours le producteur qui a le final cut. Or, il arrive vraiment à faire les œuvres qu'il veut.
Il arrive à naviguer. Moi, j'ai eu la chance de produire ses deux premiers films, ouais. Furia, avec Marion Cotillard, et Haute Tension. Et ouais. C'est Haute Tension qui l'a propulsé aux États-Unis. Mais vraiment, ce film-là a eu une résonance internationale incroyable. Et aux États-Unis, ça a été une carte de visite magnifique pour lui, qui lui a ouvert les portes du cinéma américain.
Mais vous avez été surpris par le cinéma que votre fils a choisi de défendre, très différent du vôtre.
Oui, oui, surpris, oui. Mais c'était une façon aussi pour lui de se démarquer. Et puis c'est normal, hein, je veux dire qu'il a fait son propre trou, son propre chemin. Et il est inouï. Et puis il sent bien les choses. Il sent les choses de l'air du temps. Non, c'est vraiment bien.
Alors vous avez un deuxième fils, Sacha Asperling, dont la maman est Diane Curis. Et Sacha est écrivain en 2016. Son livre « Histoire de petite fille » figurait sur la liste du prix Renaudot. Et en 2017, Sacha a écrit avec sa mère, Diane Curis, donc le scénario du film « Ma mère est folle ». Donc dans la famille, tout ramène toujours au cinéma. C'est ça ?
Oui, enfin, concernant les deux garçons, concernant ma fille, elle est loin de ça, puisqu'elle est éducatrice spécialisée, elle est équithérapeute, zoothérapeute, elle s'occupe d'enfants difficiles. Et elle est loin, très très loin du show business, là.
Vous avez déjà songé à une œuvre, un film, un documentaire qui réunirait les quatre talents de cette famille, c'est-à-dire vos deux fils, Diane Curis et vous ?
C'est difficile à faire, hein, mais peut-être. Hein, peut-être on va proposer ça à une plateforme. je ne sais pas quel biais il faudra prendre, mais pourquoi pas, oui.
Vous êtes producteur ? Vous avez produit la plupart des films de Diane Curis ?
On a coproduit ensemble, on a une société, oui. On a créé notre première société, notre société avec le premier film de Diane, Diabolomante, et puis voilà.
Premier film qui est sorti avant votre premier film,
oui,
à
avant,
vous, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, absolument. On a écrit nos scénarios en même temps, mais disons que Diabolomante il était absolument important d'avoir un lycée en plein été. Donc oui. C'était la priorité. Et il fallait donc tourner.
Donc il est arrivé
film.
Plus tôt dans la saison, voilà, ce tournage.
Voilà, voilà. Et donc on a tourné Diabolomante, qui a été le succès que l'on sait. magnifique et qui a permis à notre société de devenir ce qu'elle est aujourd'hui.
Alors je pense à ces deux jeunes gens de 19 et 17 ans qui sont partis pour le kibbutz, à la frontière israélo-libanaise, qui ont vécu ensemble dans les tranchées, la guerre des six jours, et qui, rentrant en France, deviennent tous deux, alors qu'ils rêvaient tant de cinéma, cinéastes. Il vous a vraiment souri, le destin?
Je crois que le destin nous a souri, ça c'est vrai. Pas de façon pas aussi évidente que ça, il a fallu se battre,
oui,
montrer les dents... C'était difficile, compliqué, mais notre vie était baignée de cinéma tous les jours, de projets, d'enthousiasme, de rencontres, de plaisirs inouïs que le public nous permette de raconter toutes ces histoires. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique.
On retrouve tout de suite Alexandre Arcadie.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Alexandre Arcadie, il est certain qu'on ne pourra pas se quitter sans évoquer votre dernier film, 24 jours, qui fait partie des 30 films les plus regardés en VOD aux États-Unis, ce qui est du jamais vu pour un film français. Mais film que le public en France n'est pas allé voir, peut-être parce qu'il a eu peur, n'est-ce pas, d'aller le voir. La mère d'Ilan, jeune juif mort torturé par Youssouf Fofana, vous avez dit « Je veux que la mort de mon fils serve à donner l'alerte ». Ce film était nécessaire, mais la réalité était peut-être trop violente à regarder en face pour le public.
Le plus important, c'est que le film existe.
Il et soit vu dans le monde entier.
Vu dans le monde entier, vu et revu quand il passera à la télévision, quand il est en... Vous savez, il y a Manuel Valls, qui était Premier ministre à l'époque, m'a dit une phrase qui en dit long sur cette façon dont a été appréhendé le film. Il m'a dit « Ton film est un miroir dans lequel on n'a pas envie de se regarder ». Et tout était dit là. Mais les gens qui l'ont vu, ceux qui le voient chez eux, en VOD, en DVD, etc., se l'approprient doucement. Mmh. Et pour moi, le plus important, c'est qu'une trace soit là et reste à jamais de cette jeune vie arrachée comme ça par des forces de violence, de haine, d'antisémitisme. Et c'était nécessaire pour moi de laisser comme ça cette image, l'image d'Ilan.
Parlons des jours heureux, Alexandre Arcadie. En septembre 2000, vous avez organisé le premier festival de cinéma d'été à Alger, en plein air, au Théâtre de Verdure de la ville. Toute la jeunesse algérienne était présente, ainsi que le président Bouteflika, qui vous a reçu, Roger Hanin et vous, au Palais d'été. Bon, ce soir-là, le petit blond de la Casbah, j'imagine qu'il ne vous a pas quitté, quoi. Surtout qu'il paraît que le Théâtre de Verdure n'est pas très loin de la rue du Lézard, où vous avez grandi.
À 500 mètres.
À 500 mètres.
Oui, à 500 mètres. Et vous savez, quand il y a eu cette grande... C'était la première fois qu'il y avait, depuis l'indépendance de l'Algérie, une normalisation culturelle. Il y a eu plus de 150 invités, acteurs, metteurs en scène. Et puis ce soir-là, l'histoire de l'inauguration... On m'a désigné un micro pour que j'aille faire un discours devant plus de 5000 personnes. Je n'avais rien préparé. Et donc, je me suis retrouvé devant ce micro. Il n'y a qu'une seule phrase qui m'est venue en me disant « Je suis heureux d'être là. Je suis heureux parce que je suis un enfant de la Casbah, moi aussi. Merci. » Enfin bon.
Alors là, ovation.
Là, ovation. Et le président Bouteflika, quand je suis revenu vers lui, il m'a dit « Ça y est, tu peux te présenter comme maire de la ville, hein, si tu veux.
» Mais justement, on parle d'Alger. Je sais que vous vous êtes promis d'organiser le premier voyage de Patrick Bruel en Algérie. Vous y arriverez?
Oh, ça c'est un souhait absolument, mais vraiment un vrai souhait.
Il en a envie, mais il hésite.
Voilà, il hésite, il ne sait pas comment faire, etc. Et puis je le comprends. Hein. Bon, aujourd'hui, le pays est fermé, la pandémie est là. Est-ce un prétexte ou pas? Mais enfin bon, c'est pas facile. Mais j'espère que le pays va bouger. Moi, je suis sûr qu'il va bouger. C'est un pays tellement incroyable, tellement magnifique, avec une jeunesse inouïe, enfin vraiment.
Revenons à vous. Je sais que vous travaillez en ce moment sur plusieurs projets. Hein. Alors, quels sont les films dont vous seul, pour le moment, entrevoyez les images dans votre tête? Il y a des projets en plus cinéma et il y a des projets télé. Il y a une série, il y a plein de films.
Oui, racontez-nous. Alors il se trouve que ce confinement m'a permis d'adapter Le Petit Blond de la Casbah. Et j'ai fait ce scénario et je suis très heureux d'avoir été au bout de ce scénario. Et j'espère qu'on arrivera à le faire. Préalablement, j'avais comme projet qui devait se tourner en septembre. Malheureusement, les conditions sont difficiles. C'est de faire l'Union Sacrée numéro 2. Et je trouve que c'est important
toujours
que ce film...
avec Patrick Bruel
et
Richard, avec Richard Berry.
Voilà, voilà. Donc, normalement, c'est en juin prochain.
Oui.
Vous savez, j'ai voulu faire ce film parce que au moment des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, quelqu'un dans le monde arabe avec qui je partageais cette soirée, ce soir-là, un homme très important, a eu une réflexion absolument incroyable. Il m'a dit, sachez deux choses. D'abord, le principal ennemi des intégristes, c'est l'intégré.
Mmh.
Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, c'est ça le film qu'il faut faire. Mmh. Il faut réveiller l'intégré parce que le combat passera par lui. Sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est dans cette perspective-là que j'ai écrit ce film-là. Et puis...
Je crois qu'il y a un documentaire aussi.
Il y a un documentaire que j'écris en ce moment et qui va se tourner là. Alors, pour le coup, en septembre, parce que c'est plus facile, les documentaires. C'est un documentaire sur Gérard Philippe que je vais tourner. Ça a été inspiré par le
livre de Jérôme Garcin.
Exactement.
Excellent livre.
Et voilà, c'est lui qui m'a inspiré. Donc, on a acheté les droits et on va faire ce documentaire. Et puis, un peu plus long terme, on est en écriture pour une série sur le grand pardon, avec Richard Berry aussi.
Et une série sur le grand pardon?
Oui, et ça, je fais ça avec Studio Canal et Dominique Farrugia. Et voilà, on est en pleine écriture.
Mais vous n'êtes pas prêt de partir en vacances, hein?
Non. Non, ça, non. Mais c'est plaisant, parce que c'est des grandes vacances pour moi de d'écrire.
Alexandre Arcadi, vous me permettrez cette ultime question, mais vous songez parfois à la vie qui aurait été la vôtre si le destin ne vous avait pas poussé à l'exil?
J'aurais été vendeur dans une petite boutique rue Babazoun à vendre des costumes.
Vous auriez vendu des costumes?
Sûrement, je ne sais pas. Mais vous savez, les perspectives étaient différentes dans ce pays qui était béni par les dieux, comme disait Albert Camus. C'est-à-dire que le principe de vie était la simplicité et le bonheur immédiat. Voilà, alors je ne sais pas ce que j'aurais fait en Algérie. Sûrement pas du cinéma, sûrement pas.
Sûrement pas du cinéma.
Oh, je ne crois pas, non.
Oui.
C'est l'insouciance qui prédominait en Algérie.
Oui.
L'insouciance. Et malheureusement, quand la France est partie et qu'il y a eu la guerre civile en Algérie, c'est la méfiance qui s'est installée. Et il n'y a qu'un mot différent, mais ce mot est très important. Mais nous, on a baigné dans l'insouciance. Voilà, c'était ça. Toute la communauté pied-noir française d'Algérie a baigné tellement dans l'insouciance qu'au moment du grand départ, ils n'en croyaient pas ni leurs oreilles, ni leurs yeux. C'était pas possible. C'était chez eux. Et voilà, ils sont partis.
C'était chez eux, c'était chez vous, cette rue du Lézard. Et cette rue du Lézard est vraiment une biographie passionnante que vous avez publiée il y a quelque temps chez Grasset. Je vous remercie infiniment de nous avoir embarqués comme ça, pris par la main, pour voyager dans vos souvenirs.
Merci à vous.
Et puis, je vous souhaite du carburant pour tous les tournages qui vous attendent et tous les films, nous, qu'on attend de vous. À très vite.
Merci.
Je vous souhaite une semaine formidable sur Europe 1. Et samedi prochain, à partir de 15h, je vous attends en compagnie d'Olivier de Benoît. Et dimanche, dès 15h, avec Frédéric Lenoir.